grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibiro.
Halud Mauni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour le grand dialogue de ce soir. Grand dialogue consacré au Parlement. Votre émission consacrée à l'Assemblée nationale. Pour ce 9e numéro, trois axes seront débattus au cours de cette émission. La découverte du premier cas de virus Ebola au Mali, la fin du troisième rang des pourparlers à Alger, la lutte contre le terrorisme dans le Nord. Pour en parler, nous recevons dans ce studio les honorables députés Al-Kaïdi Mamoudou Touré de l'URD, opposition élu à Durée. Monsieur Al-Kaïdi Mamoudou Touré, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Abdias Tera du RPM, majorité élu à Tomiya. Monsieur Abdias Tera, bonsoir.
Bonsoir.
Et notre ami Sori Ibrahim Traoré, président de l'association des jeunes élus du Mali. Monsieur Sori Ibrahim Traoré, bonsoir.
Bonsoir.
Ok, le premier débat de ces, le premier volet de ce débat, c'est à savoir le premier cas du virus Ebola est dévoilé au Mali, disons su et connu depuis hier au Mali. Une fille de 3 ans environ qui a quitté la Guinée pour Kaï. Depuis l'annonce de la nouvelle, les autorités ont pris de nombreuses mesures. La mise en quarantaine des personnes qui ont eu contact avec la malade, la fermeture des classes aujourd'hui dans la commune urbaine de Kaï, l'agrandissement des structures d'accueil au niveau du centre régional de Kaï, l'hôpital régional de Kaï, disons. Alors, 43 personnes mises sous quarantaine. Le maire de Kaï parle d'inquiétude. Les mesures pour prévenir, les mesures préventives aussi, le maire en parle dans ses inquiétudes. Alors, M. Al-Kaïdi Touré du RPM, alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle-là?
Et merci beaucoup. Donc, je ne suis pas du RPM, vous rectifiez.
C'est l'IRD.
Voilà, je ne suis même pas de l'IRD, je suis de VRD, si on parle de l'Assemblée nationale.
VRD.
VRD, c'est Vigilance républicaine et démocratique.
Oui.
Et c'est parce qu'il n'y a pas simplement l'IRD là-dedans qu'on a appelé VRD, parce qu'il y a d'autres partis comme le PERVM, et le PARENA, et actuellement là, comment est-ce qu'on appelle le parti de Modibo Sidibé là encore?
Phare.
Donc, merci beaucoup. C'est avec beaucoup de peine que j'accueille cette nouvelle, parce que ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Déjà, avec tous les problèmes que nous connaissons au nord, qui se répercutent au sud, si encore Ebola vient se mêler de la danse, je crois que c'est vraiment une catastrophe. Et c'est avec amertume que j'ai appris cette mauvaise nouvelle. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on nous a dit auparavant que des dispositions avaient été prises. Et si des dispositions avaient été prises, si tout ce qu'ils ont mis pour prévenir, et si le schéma a marché, apparemment, on devrait quand même, c'est pas à Bamako, et que la fille se rende encore à Kaï, qu'on puisse détecter qu'il y a un cas de virus. On devrait le savoir avant que cette fillette ne pénètre sur le territoire. Donc l'inquiétude est à ce niveau.
Donc selon vous, les mesures de prévention n'ont pas...
C'est pas moi qui le dis. C'est vérifiable, ça.
C'est un constat.
Mais ça, c'est un constat. C'est évident, ça. Parce que si les mesures avaient été efficaces, mais je crois que la fille ne pourrait pas pénétrer sur le territoire sans qu'on ait identifié qu'elle a le virus Ebola. Donc, moi, je crois que toutes ces mesures qu'on est en train de dire, c'est des mesures qu'on dit, mais je crois que dans la pratique, les gens communiquent, mais je crois qu'ils ne communiquent peut-être pas sur les choses telles qu'elles sont. C'est ça le danger.
D'accord, on va faire réagir votre collègue. Monsieur Abdias Tera du RPM, vous l'avez entendu, hein, les mesures prises préventives, elles ne l'ont pas été assez suffisantes. Alors, est-ce que selon vous, les autorités sanitaires ont été promptes, ont réagi avec promptitude?
Je vous remercie. Avant de répondre, je vais également porter mon avis par rapport à l'événement. Ça fait maintenant 2 fronts sur lesquels nous allons nous battre. Un front sécuritaire au nord et à l'ouest, un front...
Oui, par rapport au virus Ebola.
Je parle de ça. Ça me fait des soucis.
Pourquoi?
Parce que compte tenu de l'ampleur de cette maladie, vous savez que depuis qu'elle a apparu en Guinée, en Sierra Leone, ça fait des mois qu'on n'est pas parvenu quand même à circonscrire la maladie. Et compte tenu aussi du taux de mortalité très élevé, en tout cas, ça doit nous faire peur. Maintenant, par rapport aux mesures, je crois qu'il faut nuancer. Le contrôle du mouvement des personnes.
Oh ouais, pourquoi nuancer?
Pour ceux qui savent la porosité de nos frontières.
Non, la fille a transité par Bamako. Hein. Apparemment, à Bamako, on savait déjà qu'elle était malade.
Je ne vais pas m'étendre sur ces informations. Mais ce que je vais vous dire, c'est une maladie dont la période d'incubation peut aller jusqu'au-delà de 20 jours. Donc, on peut être contaminé.
On peut être porteur du virus.
Porteur du virus.
Sans déclarer la maladie.
Voilà pourquoi j'ai dit qu'il va falloir attendre quand même qu'il y ait des investigations avant de se prononcer sur quoi que ce soit. La nouvelle vient de tomber ce matin. Je crois que tout le monde quand même est paniqué. Mais pour tirer une conclusion, je crois qu'il va falloir attendre, compte tenu de certains paramètres qui entourent réellement l'évolution de la maladie. Voilà mon point de vue.
D'accord. Monsieur Souri Ibrahim Traoré, président de l'Association des jeunes élus du Mali, c'est la panique aussi ou bien il faut savoir raison garder?
Bon, surtout pas la panique. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos auditeurs. Surtout pas de panique parce que moi je suis le coordinateur national de l'action citoyenne Stop Ebola. Mais il faut reconnaître que, comme nous on l'avait dit à l'avance, le dispositif sécuritaire a été défaillant et c'est pourquoi on se retrouve dans cette situation. Ça, on ne peut pas ne pas l'admettre. Parce que le cas qui nous arrive, ça nous arrive d'où de Kissidougou. Et moi, je suis passé dans le Sidio Tamani, je l'ai signalé, Kissidougou, c'est vraiment à la limite un village créé par les Maliens, de la Guinée, où vraiment c'est un bastion d'Ebola. Donc, quand un malade nous arrive de Kissidougou, et la fille aurait perdu sa maman, qui serait décédée, fort probablement d'Ebola aussi, ça, il y avait des indices, des indicateurs qui étaient là, pour quand même...
Mais est-ce que les autorités sanitaires le savaient?
Voilà, ça, on devait se donner les moyens de le savoir. Tout malade qui nous vient de la Guinée aujourd'hui est un cas suspect. Ça, c'est évident. Maintenant, s'il faut créer les conditions de diagnostiquer avant que le mal se trouve dans nos murs et que ce mal traverse tout le territoire national et qu'on se retrouve à diagnostiquer ça à Kaye, ça, c'est vraiment regrettable, nous le disons.
Oui, mais oui, j'ai pas envie de vous dire non, hein. Ouais. Mais vous faites partie des structures de veille également. Et à votre niveau, vous n'avez pas pu aussi...
Nous, à notre niveau, nous disposons vraiment de ce qu'on peut dire les outils de plaidoyer. Et ça, nous l'avons fait. Pas plus qu'avant-hier, nous avons adressé un rapport à la primature, dans lequel rapport nous avons signalé que dans l'alentour de Bamako, à part Sébenikoro, il n'y a aucun dispositif. Et ça, c'est visible aujourd'hui. Allez-y à Kati tout de suite, demandez qui est là pour contrôler vraiment la gestion de l'Ebola à nos frontières. Donc ça, c'est vraiment des situations qu'on a déplorées, qu'on a décriées et qu'on continue à décrier. Voilà un peu ce qui nous amène.
Monsieur Abias Tira, du RPM. Aucune disposition de contrôle, rien, aucun dispositif de contrôle, rien, aucune structure pour y veiller.
Je vais réagir par rapport à cet aspect. Il faut savoir que ce mal, en tout cas, est en train de sévir de façon que si on ne fait pas attention, nous risquons de nous trouver devant une situation où même nous-mêmes nous allons nous contredire. Prenons l'exemple des pays comme les États-Unis, l'Espagne, l'Italie. Malgré les mesures que ces pays ont eu à prendre, on a quand même connu des cas. Vu les moyens dont disposent ces pays, si ceux-ci n'ont pas pu éviter certains cas, alors que le mode même de transport pour arriver dans ces pays, c'est l'avion. Alors que chez nous, c'est non seulement la voie terrestre, mais vous savez que le trafic est fait de sorte que même il a des pistes rurales par lesquelles les gens peuvent accéder au pays. Donc je vous dis, sachons raison garder. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de différence, parce que chaque fois que le mal déjà est parti, ça veut dire que quelque part il y a un chaînon, il y a un maillon de la chaîne, qu'il a dû céder. Mais quant à dire que des mesures n'ont pas été prises, vraiment je trouve que cela un peu trop dit.
Ouais, à l'instant où nous parlons, est-ce que peut-on dire aujourd'hui que le pays est à l'abri des risques, monsieur du RPM, de la vigilance républicaine?
Merci beaucoup. Donc, on n'a jamais dit à l'honorable Abidjas qu'il n'y a pas eu de disposition. Il dit que les dispositions ont failli. Et je crois qu'on est en train de parler d'un cas grave qui peut affecter tout le pays. Il ne s'agit pas d'opposition de majorité là-dedans. Il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont et que s'il y a défense, qu'on le dise. Parce que depuis que l'Ebola a été déclaré à tout près en Guinée, on est menacé. Donc s'il y a un dispositif qui a failli, il a failli. Il n'y a pas mille manières de dire que ça a failli. Ce qui est sûr, il ne faut jamais paniquer. Devant un problème, on ne panique pas. Si on panique, on ne peut pas gérer. Nous souhaitons simplement que les cas soient circonscrits et que nous soyons à l'abri, en tout cas, de toute propagation de cette maladie. C'est tout ce que moi je souhaite. Okay.
Sori Ibrahim Traoré, de l'Association des jeunes élus du Mali. Et le Mali est-il à l'abri des risques?
Non, le Mali est très loin d'être à l'abri. Quand la crise sévit en Guinée, qu'on a crié, mais pour quelqu'un qui connaît la portée de l'Ebola, c'est quand même une crise qui a une portée internationale. Déjà, quand le mal atteint la Guinée, le Mali est menacé, sérieusement menacé, vu tout ce que nous partageons avec la Guinée. Et comme l'honorable RPM l'a dit, la porosité de nos frontières, le dispositif sécuritaire qui existe là-bas, mais ça, on est vraiment pas à l'abri. Et c'est compte tenu de tout ça qu'on devait vraiment se prémunir de beaucoup plus vraiment de précautions.
D'accord. Beaucoup plus.
Mais vous regardez un peu, c'est un transporteur qui est rentré avec ce cas et qui l'a amené dans son domicile à Bagaladi. Donc ça, c'est quand même des choses qui pouvaient être évitées à travers seulement une sensibilisation. On pouvait sensibiliser ces transporteurs pour leur dire que toutes les personnes qui viennent de la Guinée, qui vraiment déclarent un certain nombre de symptômes, des cas suspects qu'il fallait déclarer, ou au moins ce n'est pas vraiment amener ça dans sa propre famille.
Oui, M. Abdias Terra, du RPM, la sensibilisation, ça pouvait aider aussi un peu?
Moi, je dirais que la sensibilisation a aidé, parce que le mal n'a pas commencé aujourd'hui. Vous-même, vous savez qu'en son temps, il y a des pays qui avaient fermé leurs frontières avec la Guinée, la Sierra Leone, des pays tels que la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Par solidarité entre États, nous avons trouvé que ce n'est pas la façon de faire. Donc, pour ce que moi je vais vous dire, il y a un aspect que nous ne devons pas perdre de vue. L'âge même de la fille.
3 ans.
Peut-être que ça aurait été une personne un peu majeure. L'intéressé allait vite se manifester. Ça allait vite manifester. Or, vu l'âge, ce n'est qu'une autre personne qui est maintenant habilitée, disons, qui est disposée à réagir à sa place. Donc, je crois que ça, c'est un aspect qui n'est pas à négliger. Donc, là-dessus. Pour revenir à mon frère Al-Qaïdi, je n'ai pas dit que le dispositif n'a pas failli. Là-dessus, on peut accorder vraiment nos points de vue. Mais dire qu'il n'y a pas eu de dispositif, c'est ce que je ne voudrais pas qu'on dise. Sans quoi, on peut mettre un dispositif qu'on juge performant, mais ça peut quand même manifester une défaillance quelque part. Donc là-dessus, je crois que nous avons les mêmes points de vue.
D'accord.
Mais des dispositions ont été prises. Mais sachez que vraiment, le fait que nous soyons des pays voisins liés, et ça arrive sur tous les plans, il y a un certain nombre de mesures qu'on ne peut pas aller, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre. À supposer qu'on ferme les frontières. Le cas du véhicule que vous incriminez, est-ce que ça allait arriver? Donc c'est pour vous dire que quelque part, bon, on ne peut pas, c'est-à-dire, trop aussi incriminer ceux-là qui ont quand même eu à transporter.
Parce que le transporteur ne savait pas. Oui, M. Al-Qaïdi, Mahoudou Touré.
Je ne suis vraiment pas d'avis avec mon collègue. Hein, parce que dire que c'est par l'âge de la petite fille, qu'est-ce que ça a à voir dans ça? Si on dit qu'il y a un dispositif de sécurité, ça veut dire que tout le monde doit être contrôlé à la frontière. Personne n'a dit de fermer les frontières. Mais qu'on contrôle systématiquement tout le monde. C'est tout. On n'a pas demandé autre chose. Et moi, je n'ai jamais dit ici qu'il n'y a pas eu de dispositif. J'ai dit qu'il a failli. Je le maintiens, je le soutiens.
D'accord. Voilà. On va observer la pause, après okay. On revient.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le Grand Dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Le Grand Dialogue de ce soir reçoit les honorables députés Alkadi Mamadou Touré de l'URD et Abdias Terra du RPM majorité élu à Tomiyan Souri, Ibrahim Traoré, président de l'Association des jeunes élus du Mali. Alors, pour le deuxième volet de ce débat, avant d'y passer, concrètement, nous allons poser la question à nos invités. Par rapport au virus Ebola, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour freiner un peu, pour freiner cette terrible maladie qui inquiète tant? Monsieur Alkadi Mamadou Touré.
Merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous avais dit. On a déjà un dispositif, il faut le renforcer. Et il faut contrôler systématiquement. Mais il n'y a pas lieu de céder à la panique. On ne peut pas gagner une bataille quelconque, que ce soit une maladie, que ce soit une guerre, que ce soit n'importe quoi, si on panique. Parce que quelqu'un qui panique ne peut pas mettre des dispositifs sûrs en place. Ne paniquons pas. Essayons de trouver les solutions, essayons de trouver de l'aide sur le plan international pour qu'on puisse venir à bout de la maladie. Moi, je crois que c'est à ce niveau que tout le monde doit se focaliser. Il ne faudrait surtout pas paniquer, il faudrait gérer la situation telle qu'elle est venue, il faudrait éviter et en ce moment renforcer les dispositifs au niveau des frontières. Personne ne demande de fermer les frontières, mais il faut renforcer le dispositif déjà en place et il faut absolument déjà crier auprès de la communauté internationale pour qu'elle vienne au secours du Mali avant qu'il ne soit trop tard.
Monsieur Abdias Terra du RPM, c'est votre point de vue?
Absolument, bon... Il y a des mesures quand même que déjà le département en charge vient de prendre. Non seulement il faut la consolider, il faut plus de vigilance désormais au niveau des frontières en termes de dépistage par rapport à ceux qui vont traverser la frontière. Et faire en sorte que toutes les personnes qui ont eu à prendre contact avec les malades soient systématiquement identifiées et mises en quarantaine. Bon, je crois que ça, c'est un aspect quand même très important. Et continuer la sensibilisation.
D'accord. Monsieur Souri Ibrahim Traoré, président de l'Association des jeunes élus du Mali. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut une mise en synergie des actions entre les autorités politiques, les autorités sanitaires des deux pays, Mali-Guinée?
Évidemment, avant d'arriver à ce niveau, nous pensons qu'il faut mobiliser la société civile. Et vraiment, une crise de cette envergure, aucun État ne peut y faire face. Ça, c'est le premier drame dans nos pays où l'État, le gouvernement veut donner l'impression de réussir seul les choses. Le dispositif dont on parle, le dispositif doit être renforcé par la société civile. Ça doit être renforcé par les leaders d'opinion à la base. Il y a des cercles entiers où les frontières avec la Guinée sont encore poreuses aujourd'hui. Posez la question au ministère de la Santé, qui ils ont qui entre la frontière du Mali à travers Faléa, demandez-les au niveau de Sagalo et de Faraba quel dispositif il y a là-bas. Les populations guinéennes rentrent là-bas comme ils veulent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de défense à ce niveau, mais ce n'est pas les agents du ministère qui peuvent régler ça. Il faut associer les leaders d'opinion à la base, il faut les former, il faut les faire prendre les vrais enjeux de cette crise-là. C'est à ce niveau qu'on peut sécuriser. Maintenant, nous, au niveau de l'action Stop Ebola, nous avons proposé des groupes d'action citoyenne contre l'Ebola. Il s'agit de créer ces groupes dans chaque village et quartier du Mali. Vous comprendrez que ce n'est pas un gouvernement qui pourra prendre ça en charge. Il faut faire ça autour des chefs de village et des chefs de quartier. Les montrer la dimension de l'enjeu. Les amener vraiment dans un élan patriotique à s'approprier de cette lutte-là. Le cas qui a séjourné à Bagadadi, si le chef de quartier de Bagadadi avec ses conseillers était conscient qu'un malade qui nous vient de la Guinée de Kissidougou pouvait constituer un danger pour toute la population, mais le cas aurait été signalé depuis Bagadadi peut-être. Et on aurait pu circonscrire à ça. Nous pensons qu'il faut s'ouvrir et il faut communiquer autour de cette question. Il ne faut pas se fermer là-dessus. Nous pensons que l'État communique très très peu sur le cas Ebola au Mali. Et ça, c'est très clair, c'est très visible. Il faut en parler.
L'honorable Alkadi Mamadou Touré, c'est votre impression aussi? L'État communique peu ou communique mal là-dessus?
Bon, moi, je ne dis pas que l'État communique peu ou communique mal, mais moi, je crois que...
Ou bien l'État veut gagner la bataille.
Non, le drame de ces pays africains, c'est qu'on veut cacher des choses qu'on ne doit pas cacher.
On veut cacher des choses qu'on ne doit pas cacher. C'est ce qui amène le problème. Au lieu d'informer là où il faut et au lieu de sensibiliser, au lieu de s'apitoyer sur les problèmes, non, non, on dit toujours, on va toujours à côté, on dit ça va aller, ça va aller. On ne peut pas rester comme ça. Il faudrait absolument, quel que soit le problème qui arrive, la seule manière de pouvoir lutter contre un fléau, c'est au moins de communiquer autour de ça. Et je ne dirais pas, moi, je ne dirais pas qu'ils ont communiqué peu ou ils ont communiqué trop. Moi, ce qui est sûr, c'est que quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est ce qui fait que le drame, ça continue toujours. Et c'est à tous les niveaux. C'est que ce soit Ebola, que ce soit d'autres problèmes, c'est toujours comme ça. Ne cachons rien, c'est le peuple. C'est le peuple qui va en pâtir. Et absolument, il faudrait que les dirigeants comprennent que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le peuple. Il faudrait absolument que le peuple soit là, que le peuple soit associé à toutes les actions et que les dirigeants acceptent enfin les propositions de ce peuple-là, pour lesquelles ils sont là.
D'accord. Avec votre permission et la compréhension de nos auditeurs, nous allons aborder le deuxième volet de ce grand dialogue, dialogue du Parlement. C'est la fin du troisième round pour parler à Alger. Un document d'avant-projet d'accord a été remis par la médiation aux différentes parties. Ce document a été diversement apprécié par les différentes délégations. Si pour le gouvernement et la plateforme des groupes d'autodéfense, ce document peut servir de base solide, la coordination composée du MNLA-HUA-MAA dissident dénonce de nombreuses insuffisances dans ce document, au nombre desquelles l'absence du mot Azawad et de l'idée de fédéralisme. Alors, M. Abiyase Tira du RPM, est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à comprendre?
Par rapport à quel point président...
Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan aujourd'hui de ce troisième round d'Alger, de pour parler d'Alger?
Bon, moi je dirais qu'on peut tirer un bilan parce que l'accord sur la négociation...
Oui, on a remis un document aux différentes délégations pour qu'elles analysent, est-ce qu'elles se prononcent un peu plus tard par rapport aux différents points qui articulent dans ce document avant-projet pour la paix, pour la paix.
Bon, dans le document qui était soumis aux différentes parties, je crois que le troisième round quand même était, c'est-à-dire, non, le deuxième round, il y avait deux étapes. Donc, la première étape est passée. Le document dont il est question, il était convenu que les différentes parties doivent aller informer
leur base
et si possible même faire la promotion. Il est question d'informer et de faire la promotion
de ce document.
Et ça, c'est dans le cadre de faire en sorte que l'aspect inclusif des négociations puisse ressortir.
Ouais,
donc je trouve un peu prématuré.
Non, selon vous, est-ce que cette période de consultation va permettre vraiment d'avancer?
Bon, si les gens sont animés d'une volonté.
Non, parce que déjà, sincère. Le document est décrié par le MNLA, le
bon,
HA, le MAA.
Moi, je crois que ce que je veux, c'est-à-dire, il y a un principe, je veux qu'on se comprenne sur ça. Il y a un document sur lequel les différentes parties doivent vraiment se prononcer. Si chacun s'en tient à ce document, je ne vois pas en quoi une autre partie pourra dire qu'il y a des termes qui ne sont pas apparus. Parce que nulle part dans les documents préliminaires, on avait fait allusion au mot Azawad. Parce que le document, il est dit les régions du Nord, que les mouvements armés appellent Azawad.
Donc vous voulez dire la feuille de route qui a
voilà,
été,
absolument,
qui a été
la,
soumise
absolument, la feuille
à
de route
toutes
qui
les parties.
Les parties. Donc si... la négociation est parvenue à adopter un document où l'appellation Azawad ne ressort pas. Je ne vois pas une entorse à la feuille de route. Parce que nulle part il n'est écrit que le mot Azawad
doit y figurer. D'accord, je vais me tourner du côté de M. Alkadi Mamoudou Touré de la Vigilance républicaine et démocratique. Alors, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan aujourd'hui du troisième round pour parler d'Alger?
Bon, moi je crois que premier round, deuxième round, troisième round, c'est tout ça, c'est pas important. L'accord de Ouagadougou, ça a été clair. Intégrité territoriale du Mali, laïcité,
L'unité nationale.
L'unité nationale, la forme républicaine de l'État. Feuille de route, même chose. On discute quoi? Je ne sais pas, moi je ne sais vraiment pas. C'est pour cela, moi je me pose la question, on va discuter quoi? Ils disent qu'ils ne veulent pas, il n'y a pas de fédéralisme, il n'y a pas d'autonomie. On respecte l'intégrité territoriale de la République du Mali. Donc si des gens ne sont toujours pas contents parce qu'il n'y a pas Azawad, il n'y a pas fédéralisme, moi je ne sais pas. Moi je ne peux pas parler de bonne ou de mauvaise foi. Parce qu'ici le problème est que les gens ont décidé d'être rebelles et ils veulent même pas qu'on parle d'eux. Si tu parles d'eux, tu deviens leur ennemi. Moi je dis qu'en ce moment ce n'est pas clair. Quelque chose qui est bien, pourquoi si on vous dit vous êtes ça, ça vous fait mal?
Non, mais le MLA parle de fédéralisme, mais il y a Maître Touré H aussi de la plateforme qui parle de la spécificité des régions du Nord, que laquelle spécificité doit être prise en compte dans la gouvernance politique.
Mais c'est que je suis en train
économique.
De. Je suis d'accord avec
tout. Est-ce qu'ils ne disent pas la même chose?
Ils ne disent pas la même chose. Parce que moi, je dis que si le MNLA parle de Kidal, je suis entièrement d'accord. Mais que le MNLA parle de Gao et de Tombouctou, moi, je suis son rêve. Je ne les ai pas mandatés pour parler de mes régions. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais les spécificités font qu'aujourd'hui, on doit avoir quand même les yeux. Mais je vous l'ai dit, et moi, je reste constant. Quels que soient les milliards qu'on va injecter dans le Nord, tant que ces personnes-là qui doivent bénéficier et qui ont le souci de développement de ces régions, n'ont pas ces fonds-là, ça ne servira absolument à rien. Mais je vous dis simplement que, quel que soit le problème, nous sommes entre Maliens aujourd'hui. Nous avons la bonne foi, nous sommes dans notre pays, il y a eu des problèmes. Évitons, arrêtons un moment, discutons, trouvons une solution politique et restons dans notre pays. Ne parlons ni de l'Azawad, ni d'autres pays que du Mali et du Mali. Et quel que soit ce qui va venir après, par rapport au développement, aux spécificités, moi je suis entièrement d'accord.
D'accord. Monsieur Sori Ibrahim Traoré, président de l'Association des jeunes élus du Mali, vous pensez que les négociations peuvent aboutir, se poursuivre et aboutir?
Oui, bien sûr. Et nous pensons qu'il y a déjà une avancée. Tant que les gens se mettent ensemble pour discuter, qu'il y ait accord ou pas, déjà il y a vraiment la conviction que c'est par le dialogue qu'on peut trouver une solution. Ça c'est déjà un point positif que nous notons. Maintenant, ça c'est dans la forme. Dans le fond, nous, ça ne nous surprend pas que le MNLA avec ses alliés reste vraiment cramponné sur leur histoire de l'Azawad, leur histoire de fédéralisme, parce que c'est ce qui a été toujours leur cheval de bataille. C'est leur fond de commerce. Et ça c'est depuis bientôt 50 ans. Mais nous pensons que la communauté internationale a été très claire. Le Mali reste indivisible. La forme républicaine, la forme laïque de l'État ne va pas changer. Maintenant, dans le fond, il y a des aspects qui prennent en compte peut-être certains aspects de leurs revendications. Quand vous rentrez dans le document en question, le projet de document, vous verrez qu'il est prévu là-dedans que les régions peuvent se mettre ensemble, que ce soit au nord ou au sud, et peuvent décider d'une forme de gestion interrégionale et peuvent même choisir des dénominations communes ensemble. Ça évite que Tombouctou et Gao se trouvent nommés par un rebelle entre guillemets de Kidal. Mais si c'est Tombouctou, Gao et Kidal qui se mettent ensemble avec des élus des régions et qui se retrouvent dans une organisation interrégionale et qu'ils décident que nous allons nous appeler Alkéli Touré, mais ça, les documents prévoient ça. Et ça, c'est démocratique et ça peut avoir une base de légitimité.
Oui, mais l'État parle de régionalisation aujourd'hui et il parle de fédéralisme. Maître Touré aussi parle des spécificités du Nord. Est-ce que à peu près c'est pas le même vocable?
Non, c'est pas le même vocable.
Peut-être au contenu plus ou moins différent.
Non, les spécificités du Nord sont prises en compte dans le document. Quand vous rentrez dans le fond du document, il est prévu de prendre des dispositions spécifiques par rapport à certains investissements qui peuvent être faits au Nord du Mali, comme dans tous les accords précédents. Ça ne pose pas de problème. Mais demander à ce qu'il y ait un fédéralisme ou qu'il y ait une partie de la République du Mali qui se retrouvera ensemble recroquevillée sur elle-même et ce qui verra l'autre partie du Mali comme vraiment un État et partenaire ou un État fédéré, ça ne marchera pas. Et tout le monde est d'accord, mais tout le monde est d'accord et la communauté internationale et les Maliens sont d'accord sur ça. Les populations maliennes ne seront jamais d'accord que quelques bandits parce qu'ils ont eu l'avantage d'avoir les armes au bon moment.
Non, entre guillemets, voilà, je retire ça.
Ouais. Mais ça, les populations ne laisseront pas vraiment dicter leur avenir par quelques personnes.
Monsieur Abdia, c'était Radio RPM.
Moi, je veux quand même qu'on nuance un peu les débats parce que vous savez que dans les accords il est dit d'éviter tout propos ou tout acte qui puisse quand même mettre en cause la confiance entre les différentes parties. Voilà pourquoi moi, je veux éviter certains termes. Mais je vais revenir à un des aspects. Lorsque la coordination des mouvements des forces de défense patriotique a évoqué le cas des régions nord, ça c'est bien prévu dans les documents. Parce qu'il a dit que, quitte à ce qu'on prenne en charge certains aspects spécifiques du développement lié au développement de sécurité des régions du Nord. Donc, ça veut dire que ça, c'est bel et bien mentionné dans les documents.
D'accord, on va observer la pause, après on revient.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le Grand Dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Monsieur Abdias, c'était Radio RPM. C'est possible, les négociations peuvent se tenir et aboutir?
Moi-même, je dirais que les négociations ont abouti. Parce que si vous suivez le chronogramme élaboré, je crois qu'ils sont à l'avant-dernière phase. C'est la phase d'information et de promotion maintenant. Et il a même dit que les différentes parties peuvent organiser des conférences ou bien même des forums avec les leaders communautaires, les associations, les organisations, c'est-à-dire politiques, et toute personne, c'est-à-dire qui peut quand même servir de modérateur dans le cadre de la négociation.
D'accord.
Donc c'est à cette phase maintenant qu'ils sont.
Okay.
Donc moi je dirais qu'ils sont presque même, on est plus près de l'arrivée que lorsqu'on était au départ.
Ok. Monsieur Alkadou Mamoudou Touré de la Vigilance Républicaine, on est tout près pour voir le bout du tunnel?
Bon, moi je le souhaite parce que dans tous les cas personne n'a intérêt à rester dans ça. Si on parle de développement, on parle de spécificité du Nord, ça veut dire qu'il faudra amorcer le développement. Le développement ne peut pas s'amorcer tant qu'on reste dans cette guerre qui ne dit pas son nom. Il faudra absolument qu'on arrête. Et je crois que ne serait-ce que parce que tous les acteurs aujourd'hui sont fatigués, je crois qu'on va arriver à un accord. Mais ne confondez pas ce que les spécificités de Kemetra Haruna dit et le fédéralisme et l'autonomie, c'est pas la même chose. Le fédéralisme veut dire qu'il y a deux États différents qui veulent entrer dans une même entité politique. C'est pas la même chose. Donc je crois que vraiment tout le monde a intérêt, tout le monde est fatigué aujourd'hui. Je vous l'ai dit, tout le monde est fatigué, même la communauté internationale. Donc elle a intérêt aujourd'hui à influencer sur cet accord-là pour qu'enfin ça aboutisse à quelque chose. Et c'est nous l'appelons de tout notre vœu, parce que vraiment je crois que ça ne peut pas aller sans ça.
D'accord, nous allons partir pour le troisième volet de ce débat. La France réitère son engagement dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Aujourd'hui, le ministre français de la Défense doit arriver au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali. C'est là quelques jours après la recrudescence des attaques terroristes contre les forces internationales et l'arrestation des présumés djihadistes par les forces françaises à Kidal. Ouais, est-ce que, selon vous, cela peut rassurer aujourd'hui les Maliens, la visite du ministre français de la Défense, Yves Le Drian, à Bamako, Monsieur Alkadi Mamoudou Touré,
moi,
de la Vision Républicaine.
Que ce soit la France, que ce soit la communauté internationale, aujourd'hui, rien ne m'assure. Parce que dans tous les cas, les terroristes, on dit qu'on est là pour lutter contre le terrorisme. Il y a en train de se promener à Kidal. Les forces de sécurité françaises et puis les services secrets français ne peuvent pas nous dire qu'avec tous les moyens qu'ils ont et tous leurs trucs là, qu'ils sont en train de dire quand même qu'ils ne peuvent pas savoir qu'il y a dans ce, en train de se promener. C'est-à-dire, moi, je ne crois en rien que ce que je vois maintenant. Parce que ça, on est fatigué. Et si on parle de la France, on dit on veut gâter les relations entre le Mali. Mais non, non, la France est venue pour nous aider, qu'elle nous aide sincèrement. Et je crois que tant que c'est simplement pour venir parler et aller, ça ne résout rien. Ils sont sur là-bas, ils peuvent lutter contre le terrorisme. Ils peuvent le
mais
faire.
Ils viennent d'arrêter trois djihadistes.
Mais ils ont arrêté quoi?
Mais
il y a des là-bas. Pourquoi on n'arrête pas? Ils se promènent, ils parlent en Algérie, ils parlent là où ils veulent. Moi, je n'ai rien contre ni les djihadistes, ni les rebelles. Moi, je n'ai rien contre personne. Mais simplement, nous sommes dans un débat où nous ne comprenons nous-mêmes absolument rien. Parce que c'est visible. Quand quelqu'un t'explique quelque chose, la personne est venue pour vous aider. Si elle ne vous aide pas, dites-le. Maintenant, là où ça ne va pas, qu'on nous le dise, ceux qui ne voient pas. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et du côté du gouvernement, et du côté de la communauté internationale. Et de nous le dire. Et c'est justement, c'est ça le problème. parce qu'on cache quelque chose au peuple et absolument il faut le dire.
Monsieur Abias Tera de RPM, il y a des non-dits dans cette affaire de tourisme au nord?
Il n'y a pas de non-dits parce qu'il est dit de négocier, ne pas les faire dans la précipitation, mais de les faire de bonne foi. Donc, si aujourd'hui le ministre français de la Défense doit passer au Mali,
ça rassure, ça doit rassurer les Maliens.
Ça a toujours rassuré. Ça doit rassurer. Parce que je dirais que toujours est-il que c'est dans le cadre de l'application de la feuille de route. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la feuille de route, il y a une zone quand même qui avait été bien délimitée et il était dit qu'on devait mettre en place une unité d'observation et de surveillance sous directive de l'aménagement. En l'occurrence, la zone de Tabankor, Anéfis, c'est bon.
Où il y a des affrontements aujourd'hui.
Il y a des affrontements aujourd'hui.
Est-ce que tout ça, ça rassure?
Il faut aussi faire la part entre nos groupes armés et les terroristes. Donc, on ne peut pas venir à bout des terroristes sans la signature, c'est-à-dire d'un accord de paix et la matérialisation vraiment de cet accord. Donc je dirais que il y a des étapes que nous devons quand même franchir d'abord avant de parler d'éradication du terrorisme.
Par exemple?
Par exemple, il faut non seulement que le processus de paix puisse arriver à terme et que les dispositions qui sont contenues dans la feuille de route, le cantonnement, la démobilisation des différents groupes armés soient effectives. En ce moment, on pourra quand même faire la part entre qui est terroriste et qui est mouvement armé.
D'accord. Alors, la France estime aujourd'hui à 200 les djihadistes présents au nord. Est-ce que ces chiffres vous paraissent exacts ou en deçà de la réalité? Monsieur Souri Ibrahim Traoré?
Oui, nous pensons que ces chiffres sont vraiment largement en deçà de la réalité. Aujourd'hui, il est très difficile de faire la différence entre les terroristes et les indépendantistes et tous les groupes armés. Nous, au niveau de l'Association des Jeunes Élus du Mali, nous avons pensé qu'il y a une phase importante qui a été manquée. Il fallait commencer par désarmer toutes les forces. Le processus de désarmement et de cantonnement, c'est ce qui devait constituer le point A. Aujourd'hui, tu prends les armes, tu te promènes dans le désert, tu vois une force en face de toi, tu montes le drapeau du MNLA et tu es vraiment l'enfant béni du territoire. On négocie avec toi. Alors que tout le monde est unanime qu'on ne négocie pas avec les djihadistes, on ne négocie pas avec les narcotrafiquants. Parce que les djihadistes, vous savez, ils profitent d'une faiblesse, ils profitent des périodes de crise, sinon ils n'ont pas d'État, ils n'ont pas ils n'ont ni loi ni foi. Ils profitent seulement pour faire leur trafic dans le désert. Et nous devons travailler de sorte que nos frères, qui sont vraiment dans ces territoires, qui pensent qu'ils reconnaissent le Mali, qui veulent vivre en paix, et acceptent d'être désarmés pour qu'on puisse savoir l'ennemi commun qui est en face de chacun d'entre nous, qui sont vraiment les narcotrafiquants, les djihadistes, et que nos amis, nos alliés, la France et d'autres puissent nous aider vraiment à éradiquer ces phénomènes-là. Mais tant que toutes les forces qui sont sur le terrain peuvent porter les armes, on peut tout simplement vraiment se faire le bénéfice de faire flotter un drapeau et de passer sous ce drapeau et vous devenez vraiment un enfant béni du territoire à choisir. Ça, c'est très difficile. Nous pensons qu'il faut désarmer toutes les forces qui sont dans les trois régions du nord du Mali. Ouais. Jusqu'à la fin.
L'honorable Alkadi Touré de la Vigilance républicaine, vous pensez qu'il fallait désarmer aussi? Désarmer pour qu'il y ait les prémices réelles de paix, de vraie paix au nord?
Bon, moi, ça on n'a même pas besoin. Si des gens ont des armes, si on les désarme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les armes? Non. Mais ce que je veux que mon collègue comprenne, si on dit aujourd'hui, on ne sait pas, il faut faire la différence entre les rebelles et les djihadistes. Mais j'ai dit, il y a des choses qui
sont... Est-ce qu'on peut faire la différence?
La différence, il n'y a même pas de différence, je vous le dis, parce qu'ils étaient MNLA là. Quand il y avait eu en Sardine, ils sont rentrés en Sardine. Quand il y avait eu l'autre groupe là, Mijao, ils sont partis Mijao. Eh, mais c'est clair, les gens du HCR, ils sont venus d'où? Ils sont venus de...
Non, quand même, à un moment de la lutte, l'année en 2012 au nord, quand même, le MNLA a été chassé de toute la ville
mais
du nord.
Mais c'est ce que je suis
Mijao.
En train de vous dire, mais le MNLA est chassé. Quand le Mijao a eu la force, ils sont partis au Mijao. Ils ont dit ils ont Mijao. Ils sont Mijao. Quand les djihadistes sont venus, ils disent qu'ils sont djihadistes. Donc, on sait quoi? Le HCR, c'est un dissident de machin de Yad? Ça, quand même, c'est clair. Donc vraiment dans cette histoire-là, la France est venue pour nous aider. Elle a les moyens de le faire au nom de la toutes les vertus de cette République-là qu'elle nous aide. Elle a les moyens de le faire qu'elle le fasse. C'est tout. Et c'est là qu'il y a ambiguïté.
Mais monsieur Abdia Sétéra du RPM.
Bon, je ne partage pas cet avis parce qu'il faut reconnaître que les accords quand même contiennent pas mal d'éléments parce que l'aspect justice. Réconciliation et même l'aspect humanitaire. Vous savez que il n'est pas dit que tout ce qu'on y apprend les armes qu'on puisse quand même les mettre sous la bannière des terroristes. Ceux qui vont reconnaître la forme républicaine, la laïcité de l'État.
Donc il faut négocier, aboutir à la paix pour identifier selon
pour,
vous.
Pour identifier selon et c'est ce qui est contenu dans les documents. Maintenant, après l'accord. Ceux-là maintenant qui vont enfin à cette disposition, eux, ils seront quand même combattus comme terroristes. Sinon, à l'état actuel des choses, je trouve que nous devons faire.
Il faut faire confiance à la communauté internationale,
à, la communauté internationale,
à nos partenaires,
et au gouvernement.
D'accord. Dernier tour de table de ces débats. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a de faire aujourd'hui pour que l'armée puisse revenir, retourner au nord, occuper les régions du nord, l'armée malienne. Monsieur l'honorable Al-Kadi Mamoudou Touré.
Moi, je voudrais simplement rectifier une chose. Moi, je n'ai jamais dit ici là, qu'il ne faut pas faire la nuance. Hein. Mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret dans cette histoire-là. C'est connu, c'est comme ça. Mais moi-même, les djihadistes, si on discute avec eux sur la base qu'on va aller dans ce pays-là et qu'on vienne à la paix, ça ne me pose aucun problème. Mais j'ai dit, parlant de l'armée, l'armée aujourd'hui, elle doit continuer sa restructuration. Il n'y a aucun problème à ce niveau. La France peut nous aider à ça. Et absolument, la communauté internationale n'a qu'à l'aider. Parce que nous, on dit l'aménagement est là. L'aménagement est venu. Que l'aménagement n'aide pas l'armée malienne, je peux comprendre. Mais l'aménagement fait quoi par rapport aux populations civiles? Je vous donne un exemple. Toutes les pinasses qui partent vers le nord aujourd'hui au niveau de Ber, on les arrête, on les dépouille. L'aménagement est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle est là pour qui? Mais ça, c'est pas l'armée. Une pinasse quand même ne contient pas des éléments de l'armée. Donc vous savez, la communauté internationale, le jeu, moi je ne le comprends pas, ça n'engage que moi, je ne le comprends pas.
Monsieur Sori Ibrahim Traoré, de l'association des jeunes élus du Mali, vous comprenez sa question, l'aménagement fait quoi?
Non, à ce niveau, moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je crois que les constats sont clairs. Le peuple malien, dans sa large majorité, n'est pas satisfait de ce qui se passe. Mais ça se comprend. Vous savez, quand on rentre dans un processus de conflit profond jusqu'à ce niveau, la sortie de crise se négocie. Et toute négociation, c'est vraiment des compromis qu'il fait. Et tout compromis qui est lié à la dignité, à la souveraineté et au territoire, c'est vraiment des compromis qui sont très, très douloureux. Nous comprenons ça. Mais nous pensons que le document prévoit une phase où il y a vraiment les phases de désarmement, les phases de démobilisation et les phases de réinsertion. Ça, c'est une phase qui va être très, très cruciale et qu'il faudra être très vigilant et très rigoureux pour vraiment l'amener à bon port. C'est après ça qu'il va avoir le processus de redéploiement de l'armée. C'est prévu dans le document. Le document dit, si je ne me trompe pas, qu'à partir de la signature de l'accord sur une année, l'armée malienne va se redéployer sur les territoires, sur l'ensemble des régions du Nord. Donc, moi, je pense qu'à cette phase, l'armée va se déployer et tous ceux qui vont enfreindre vraiment à ce processus seront clairement positionnés comme ennemis vraiment de la communauté nationale, ennemis de la paix, donc vraiment des adversaires à qui il faut faire face.
D'accord, merci à vous, monsieur Abiastera. Dernier mot, 30 secondes.
Bon, je suis quand même très confiant quant à l'aboutissement quand même des négociations. Parce que vous savez qu'aucune paix durable ne peut se construire par les armes. On a toujours fini par revenir à la négociation. Et quant au déploiement de l'armée, je crois que c'est quelque chose que tout le monde maintenant vient de voir. Par le passé, on a exigé à ce qu'on allait les dispositifs sécuritaires au nord.
Ok, merci à vous tous. Je crois que nous allons avoir en cet instant précis une pensée pieuse pour elle. On parlait d'elle au début de cette émission. Il semblerait qu'elle n'est plus de ce monde. Merci à vous, merci aux auditeurs. À demain. Grand dialogue de ce soir pour le Parlement, ça prend fin. Cette émission a été rendue possible par le soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international. Le contenu de cette émission est de la seule responsabilité du studio Tamani et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Honorable député, merci à vous. Merci, M. Traoré.
Nos condoléances à la famille de la disparue.
Merci beaucoup.
Nos condoléances.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de notre radio partenaire.
Studio Tamani, on est chez Angala Silin Labenin Koso. Au Kambeshini, nous avons un radio sur lequel
Studio Tamani Gawar Fondo Gui, Suba Irgechor Kubei, Ira Radio Golagande.
Studio Tamani, Njawan al Kherajen Yaramas Nana, Nekfi Wanasi Harashika. فال راديو تنتيدر هنغد هلي
ستيديو تماني سكرا بهدي بنيالوم او اون اي جام يو انجي جانغو نجوكو اي هداد راديو ناجي ندوري دوجي امين دي اون جارامو